Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'émission Communication Apaisée. Je suis Muriel Duhem et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission en compagnie de... Non, c'est plus Ségolène. Ségolène qui était là depuis plusieurs mois avec nous pour nous accompagner en tant que psychologue sur tout ce qui était sur la relation dans la famille, dans la fratrie en particulièrement sur ces deux, trois dernières émissions et sur l'accueil de nos émotions aussi en tant que parents. Et voilà, l'année se termine, l'été arrive et une nouvelle invitée est avec moi aujourd'hui dans le studio. Bonjour Fanta.
Bonjour Muriel.
Je reçois donc Fanta Cano. Fanta Cano, vous allez voir, aujourd'hui ça va être un sujet un petit peu différent des multiples émissions passées que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur le site yvelineradio.com. Parce que aujourd'hui avec Fanta, la communication apaisée va être ici, hein, toujours et encore, et plus avec soi-même. On en dit plus à nos auditeurs ?
Oui.
Fanta, elle est coach parentale et elle est aussi doula. Mais qu'est-ce donc ça, une doula ? Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc l'idée, c'est voilà, Fanta va nous présenter son métier. On va parler de comment ça se passe, pour qui, pourquoi, comment, où, et surtout, eh bien voilà, pour vous faire découvrir peut-être à ceux qui ne le connaissent pas encore ce joli métier de doula. Et puis pour que vous puissiez après, si vous en avez envie ou si vous voulez en parler autour de vous, en connaître un petit peu plus. Alors, je vais te laisser te présenter un petit peu brièvement. Tu as des enfants, je crois ?
Oui, je suis maman de 3 enfants, 2 garçons et une petite fille.
D'accord. Et donc, ce métier de doula, c'est venu en cours de route ou tu es doula depuis la naissance ?
Non, pas du tout. Ça s'est vraiment concrétisé à l'arrivée de ma fille. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir des grossesses et des accouchements qui se sont bien passés. Mm-hmm. Mais vraiment bien passés. Je reviendrai dessus pourquoi je reprends ça. Je me suis retrouvée à être actrice de mes grossesses et de mes accouchements, qui ont été des accouchements naturel ou physiologique, et j'ai touché du doigt là une espèce de puissance et surpuissance que je n'avais pas connue d'ici là, et du coup je me suis dit waouh, c'est super puissant, et pourquoi toutes les femmes, quand elles parlent de leur accouchement, il n'y a pas forcément cette expérience positive qui ressort.
Ok, du coup, donc tu t'es renseignée, formée et donc tu as accompagné. Alors, si j'ai bien compris, alors si je me trompe, hein, tu me reprendras. C'est vrai qu'en préparant cette émission, j'ai essayé de bien comprendre comment ça fonctionnait. Moi, j'ai pas eu la chance, hein, j'ai 2 enfants aussi, mais voilà, j'ai fait toute seule, avec un bouquin. J'ai suivi des trucs. Mais voilà, si c'était à refaire, je pense que l'accompagnement serait plutôt bienvenu. Et c'est vraiment un accompagnement. Alors. On va parler du rôle de doula, mais finalement, il y a un accompagnement global,
tout à fait.
Limite de la préconception, de l'envie de grossesse.
Tout à fait.
Ouais.
Jusqu'à ce que les parents se sentent à l'aise avec leur enfant. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment de remettre les parents au cœur de cet événement. Parce que, évidemment, quand le test devient positif, on peut parfois se laisser embarquer par l'équipe médicale ou les équipes médicales qui nous accompagnent, et des fois être assez déçu, voire traumatisé pour certaines, de l'issue, en tout cas de l'accouchement qui a pu être proposé. Donc okay. L'idée de la doula, c'est vraiment de dire aux parents, c'est vous qui vivez cet événement-là, et c'est à vous de choisir ce qui est juste pour vous et pour accueillir l'arrivée de cet enfant.
Oui, donc je vois tout à fait effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que tu es là aujourd'hui, ce lien avec la communication apaisée, avec soi-même finalement, d'essayer de savoir ce qui est bon pour nous, sachant qu'a priori, chacun d'entre nous sait, s'il arrive à se reconnecter à l'intérieur de lui, ce qui est bon pour tout de suite, maintenant et demain.
Tout à fait. Oui. Savoir ce qui est bon pour soi, ça permet de prendre position, et du coup, quand il y a des propositions qui sont faites, de chercher à comprendre pourquoi c'est fait, et si on n'est pas OK avec, de demander les autres options qu'on a, et en tout cas de choisir en conscience. L'idée, c'est ça.
Une bien belle idée. Alors du coup, c'est vrai qu'on s'adresse pas spécifiquement, alors entre autres si aux mamans peut-être qui ont là en ce moment, ou au papa d'ailleurs, un projet familial de naissance, ça peut être pour un enfant, sachant que les personnes ont déjà des enfants, hein, c'est pas forcément que pour le premier.
Tout à fait. Parce que chaque, encore une fois, chaque grossesse a son histoire et arrive à un moment particulier de la vie du couple. Tout à fait.
Donc pour tout le monde et puis pour les gens qui sont autour et qui entendent parler de voilà, ne serait-ce que d'un à caractère informatif, cette émission est bien entendu ouverte à tout le monde.
Tout à fait.
Alors aujourd'hui du coup on s'est dit qu'on allait peut-être axer sur trois sujets un petit peu en particulier voilà, pour apporter des informations. Alors si quand même, sachez que nous sommes dans les Yvelines, et dans les Yvelines, a priori de ce que tu me disais, c'est le département où il y a le plus de doulas.
Effectivement, alors malheureusement, il y a trop peu de doulas en France. C'est un métier qui n'est pas très très bien connu, mais qui a tendance à le devenir. Hein. Le métier existe en France depuis au moins 15 ans.
D'accord.
Et donc, c'est une Française qui a vécu aux États-Unis, qui a ramené ce beau métier
des
États-Unis, parce que l'accompagnement de doulas est très connu dans les pays anglophones et même chez nos voisins européens.
Et j'ai entendu dire que Meghan Clark avait été accompagnée d'une doula. C'est vrai? Ou c'est une rumeur?
Alors, on ne sait pas et c'est tant mieux puisque nous sommes dans la confidentialité.
Ah, c'est un point important.
Voilà.
D'accord.
Donc, en tout cas, dans la presse, il a été ressorti que Meghan Merkel aurait eu sa doula. Et si c'est le cas, je trouve ça super. Mais ça a permis de mettre en lumière, effectivement, notre profession. Et donc, une doula, c'est avant tout une femme qui vient en aide aux futurs parents, à la future maman, mais également à la fratrie et en fait à tout l'entourage de la future maman pour que cette grossesse et la naissance du futur bébé se passe le mieux possible et que les parents, en tout cas toute la famille, en ressortent avec l'expérience la plus positive possible.
Mmh.
Voilà. Et donc, ça peut être un accompagnement qui peut commencer avant la naissance, qui peut être aussi pendant la grossesse, même le jour J, et après tout ce qui est post-nat, sur des questions, on va revenir tout à l'heure sur l'allaitement par exemple, voilà. Mais vraiment c'est un accompagnement global qui englobe la famille dans son ensemble,
okay,
pour que voilà, l'arrivée et l'accueil de cet enfant se fasse en douceur. Et,
c'est donc intergénérationnel ?
Tout à fait.
Voilà, donc si vous cherchez des informations, il y a un site, je crois, Doula de France,
oui,
en cherchant sur un moteur de recherche,
tout
on tombe dessus directement. Et donc, dans les Yvelines, 15 doulas, c'est
oui,
ça ?
Oui, nous avons la chance d'être le département où il y a le plus de doulas, donc c'est juste chouette.
Profitez-en !
Tout à fait.
Bon, et bien, donc, maintenant qu'on sait un petit peu mieux ce que ça représente, cette globalité, comme je vous disais il y a un petit instant, l'idée, c'est on va axer plutôt sur trois sujets en particulier. Et puis bon, ceux qui écoutent depuis un petit moment l'émission déjà savent que parfois ça peut partir dans d'autres directions, mais voilà, on va essayer de cadrer quand même un petit peu. Donc l'idée, c'est de parler dans un premier temps du projet de naissance,
oui,
dans le global, parler ensuite peut-être du choix de la maternité, et comme tu l'as dit juste il y a un instant, de l'allaitement, c'est ça?
Oui.
Ok, c'est parti. Alors, projet de naissance.
Alors, le projet de naissance, en fait, c'est de permettre aux parents de réfléchir sur la façon dont ils veulent accueillir leur futur enfant. Mmh. Et l'idée, c'est de dire les choses que le parent souhaite, c'est-à-dire est-ce que ça va être une naissance physiologique, naturelle, voie basse, ou si ça va être, peut être une naissance médicalisée, qui est nécessité ou pas, en fait, voilà. En tout cas, c'est aux parents de se positionner sur des choix bien précis.
Tu veux dire qu'aujourd'hui, on peut choisir « Bonjour, je voudrais une césarienne le 12 ».
Il y a...
Ça se fait.
Ça peut
ouais
se faire.
Okay.
Tout dépend, en fait, du choix des parents.
D'accord,
donc,
ça peut se faire.
Ça peut se
je
faire.
Je savais pas, voilà.
Ça peut se faire. Donc, la doula, en fait, en tant que doula, on accompagne tout type de naissance. Donc,
d'accord,
que ça
ouais
soit des naissances par voie basse ou naturelle, ou que ça soit des naissances qui aient besoin ou pas d'être médicalisées.
D'accord, ouais.
Voilà.
Vous n'êtes pas sectaire, en fait.
Du tout.
C'est ça.
Il y a une ouverture. On est là pour répondre aux besoins du couple, de la femme, voilà, en particulier.
Voir les aider à peut-être
se projeter,
peut-être se remettre en question,
tout
changer d'avis d'ailleurs,
pourquoi pas aussi, en tout cas,
l'idée qu'ils soient sûrs de leur choix,
c'est
et
ça.
Non pas parce que la belle-mère a dit qu'il fallait faire comme ci, le cousin a dit qu'il fallait faire
tout
comme ça,
fait.
Du coup il part dedans. Laisser ce temps de réflexion finalement,
tout à fait.
D'accompagnement pour
oui.
ça.
Mm-hmm. Faire des choix en conscience et qu'ils soient justes pour eux.
Voilà, okay.
C'est vraiment la ligne directrice de l'accompagnement.
D'accord.
Et donc, pour le projet de naissance, c'est de réfléchir comment le couple souhaite accueillir leur enfant. Alors donc, je vous le disais, hein, que ça soit de façon naturelle, avec ou sans péridurale, mm-hmm. enfin, réfléchir à ça, et de voir s'il y a certaines procédures médicales qu'ils ne souhaitent pas, comme par exemple ne pas avoir d'épisiotomie.
Mm-hmm.
L'épisiotomie consistant à agrandir le vagin de la femme pour faciliter le passage du bébé. Et c'est une pratique qui est très décriée.
Mmh.
Voilà. Donc, en fait, de poser concrètement et d'avoir, je dirais, des éléments de discussion avec l'équipe médicale par rapport à leurs souhaits. Et je précise bien par rapport à leurs souhaits, parce que l'équipe médicale se garde le droit d'y accéder ou pas. Mais
oui,
voilà.
Mais au moins qu'ils posent leur demande,
tout à fait.
Qui n'est pas une exigence.
C'est ça.
Ça me rappelle la communication non violente.
voilà.
C'est poser en tout cas, savoir les sujets sur lesquels ils ont leur mot à dire,
c'est
finalement,
ça, c'est
sur
ça.
Quoi ils ont une emprise, enfin encore une possibilité de dire oui, non, j'aimerais ci, j'aimerais ça, c'est
oui.
ça.
Oui, en sachant que tout peut être discuté. Et que c'est une histoire effectivement d'arriver en disant voilà, aidez-nous à accueillir notre bébé de la façon dont on le souhaite,
ouais.
s'il n'y a pas de nécessité médicale à ouais. appliquer
dans
ça.
L'idéal, je souhaite comme
voilà.
ceci, je me suis renseignée et la doula est là pour expliquer un petit peu
apporter
les
informations
voilà.
actualisées et randomisées pour dire voilà, on veut peut-être vous amener ça ou on vous a dit d'aller vers ça, les équipes médicales est-ce que voilà les autres options que vous pouvez avoir, vous où vous vous positionnez et qu'est-ce
D'accord.
qui est juste pour vous, encore une fois.
C'est vraiment une idée de partager, que le parent, le futur parent, soit en conscience de toutes les éventualités possibles.
Tout à fait, tout à fait.
Mmh.
Et dire que, en fait, c'est vraiment lui qui est au cœur de cet événement-là.
A priori. Mais c'est vrai que, enfin, par le passé, et puis, enfin, il y a beaucoup. D'ailleurs, j'avais entendu parler d'une émission où des gens avaient témoigné sur les difficultés. Enfin, on entend des horreurs suite à des
tout
accouchements.
À
j'étais prise comme un animal.
Ah, oui,
j'ai été complètement inhumanisée, enfin, déshumanisée, pardon. Et on m'a fait ci, ça, j'avais pas le choix. Enfin,
oui,
il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais.
C'est pour lutter contre ça, finalement. Tout à fait, pour lutter notamment contre les violences obstétricales et gynécologiques dont on a entendu énormément parler, tout à fait. Et donc, en connaissant les choses, en ayant le savoir, ça permet de rétablir aussi, j'ai envie de dire, une certaine... Je veux dire le mot égalité, en fait, du coup, et de se positionner, en tout cas, en conscience, encore une fois.
D'autres sujets, outre côté... Enfin, dans les actes chirurgicaux, tu parlais de l'épisiotomie, il y a d'autres choses comme ça qui...
Si par exemple on dit à la femme voilà qui ne souhaite pas accoucher avec une péridurale mais que à chaque fois que elle serait en difficulté pendant le travail quelqu'un vient lui dire ah mais vous êtes sûre que vous voulez pas la péridurale, on n'est pas très aidant.
Oui,
donc,
c'est sûr que si ça a été posé avant, c'est quoi ? Du coup, c'est quelque chose, le projet de naissance, c'est quelque chose qu'on écrit ?
Tout
c'est
à fait.
Ouais.
Alors, ce qui est écrit reste. Donc, nous conseillons souvent aux parents d'écrire. Le projet, et comme ça, puisque malheureusement lors d'un accouchement à la maternité les équipes peuvent changer,
oui, bien
et donc
sûr, ouais.
c'est que l'idée, il y a une trame en tout cas du souhait des parents, et que ça soit pas quelque chose sur lequel ils aient à lutter le jour J,
oui.
parce qu'ils auront d'autres choses à penser.
C'était écrit,
voilà.
On l'avait écrit il y a 3
voilà.
mois, j'étais en conscience, ça allait bien, là je ne peux plus, je vais vous hurler dessus, lisez le papier.
Non mais voilà, c'est ça, et donc que toute l'équipe soit au courant en tout
D'accord.
cas des souhaits des parents par rapport à la naissance de leur bébé.
Mmh.
Voilà.
Je me demandais comment c'est accueilli par les équipes médicales, justement, parce que c'est peut-être nouveau pour eux aussi.
Alors, plutôt bien. Et
ouais.
d'ailleurs, lors des visites avant la naissance, la sage-femme, ou en tout cas, et ou l'obstétricien, sont censés en parler. Donc,
De cette possibilité du projet de naissance, tu veux dire
ouais. Pas de la possibilité.
Enfin, non, du projet de naissance existe.
Tout à fait. Donc, et si.
Moi, il y a 13 ans, on m'a parlé.
Mais voilà, donc c'est plutôt récent. C'est plutôt récent, mais ça fait partie des choses qui sont abordées lors des visites avant la naissance. Donc,
oui,
voilà.
Ça rentre quand même un peu dans
les mœurs
aussi.
De plus en plus. Ouais, ouais. Voilà. Et vraiment, ne pas hésiter, du coup, à réfléchir à ça. Ça permet. De préparer les choses encore une fois et en tout cas d'aller vers des choses qui vous conviennent.
Qui vous conviennent. Pas forcément comme la voisine.
C'est ça.
Ok. Donc on a dit voilà le déroulé enfin en gros les actes médicaux à éviter s'il n'y a pas de d'urgence médicale.
Oui.
Ah, il y a encore d'autres choses
oui,
un petit peu qui rentrent.
Oui, ça peut être aussi une fois que le bébé est sorti de demander à faire un pot à pot qui normalement on n'aurait pas à le demander mais voilà de le spécifier avant qu'il embarque dès qu'il est sorti pour le nettoyer juste voilà si c'est ce que vous souhaitez en tout cas faire du pot à pot immédiatement le mettre au sein immédiatement, si c'est votre projet aussi. En fait, vraiment l'ensemble du déroulé de l'accouchement jusqu'à l'accueil du bébé. Voilà, si vous souhaitez effectivement que le cordon ne soit pas coupé tout de suite. Enfin, voilà.
Qu'il soit coupé par un tel ou un tel.
Voilà, que ça soit, que ça soit par exemple coupé par votre compagnon ou la personne qui vous accompagne. Voilà, mais vraiment, c'est des balises que vous mettez en disant voilà, je souhaiterais, voilà, que mon accouchement et que l'accueil de notre enfant se passe de cette façon.
Ok, super. Alors, j'étais en train de me dire, donc là, on parlait donc de ce projet qui s'écrit, qui se donne aux équipes, donc au rendez-vous quelques mois avant l'accouchement. Je disais qu'on parlait du choix de la maternité, parce que pour moi, ça va un petit peu ensemble. J'ai cru comprendre qu'on n'était pas pieds et mains liés.
Surtout pas. Accoucher, ce n'est pas anodin. Ça, c'est une évidence, mais bon, j'aime bien le préciser. Et si on choisit une maternité, c'est souvent le cas par commodité et proximité, mais que cette maternité en question ne nous suit pas dans notre projet de naissance, ça peut être très intéressant de voir si un autre établissement, un autre lieu, est plus favorable, et du coup d'y aller... en étant moins stressé, en tout cas, en sachant qu'on va vous suivre dans votre projet.
On a le droit.
On a le droit, on a le choix. On prend ce choix, on se donne ce choix pour aller vers des choses, encore une fois, qui sont justes pour nous. Voilà.
Et par contre, une maternité pourrait nous refuser ou...
Alors, parfois, on peut entendre des histoires de... comment dirais-je de sectorisation, pardon.
Comme les collèges.
Voilà. Mais en sachant que dans l'absolu, une femme enceinte, quand elle débarque dans un établissement, il y a une obligation de la recevoir. On ne peut pas la renvoyer.
Ah oui.
Voilà. Sinon, ça serait non-assistance à personne en danger.
Mais oui, finalement,
voilà.
Oui, bien sûr.
Mais effectivement, on peut entendre ça. Mais dans l'absolu, on peut accoucher là où on veut.
Oui. Sachant que dans l'idéal, c'est quand même d'être dans un lieu où on peut connaître la structure. Enfin, ça peut être plus rassurant aussi pour
tout
le parent d'être déjà vu avant, d'avoir
tout
rencontré
à fait. Tout à fait.
Au moins, si ce n'est les équipes, la sage-femme
oui.
ou le sage-femme. On dit le sage-femme.
Le sage-femme ou le mailloticien, c'est ce qu'on dit aussi. En sachant que de plus en plus d'établissements proposent des visites.
Pré-accouchement.
Voilà, tout à fait. Ce qui permet effectivement d'avoir une connaissance du lieu et de permettre de ne pas arriver entre guillemets en terre inconnue, ce qui permet aussi de diminuer le stress par rapport
au jour J.
Voilà. Donc ne pas hésiter à se saisir de ça, de visiter le ou les maternités. Vraiment, prenez le temps de choisir celle qui convient et qui va dans le sens de votre projet de naissance.
Ouais, donc celle où vous vous sentez bien, où vous vous sentez accueilli, où vous ressentez la bienveillance ambiante.
Tout à fait, très très important et ne pas hésiter encore une fois à changer.
Et finalement, quand on a, enfin moi j'ai de souvenirs, alors je te dis, hein, c'est il y a moultes années maintenant, mais voilà, où mon gynéco il me disait, ben voilà, j'accouche dans cet établissement-là, donc en gros j'avais pas, enfin je croyais ne pas avoir le choix, mais finalement... Oui, non, je peux très bien aller dans un établissement et du coup après avoir rencontré l'obstétricien qui est de cet établissement.
Tout finalement. À fait, ouais. Tout à fait. Effectivement, après, quand il y a des gynécologues dans le privé, ils ont un lieu, un établissement de rattachement, en
c'est
fait.
Ça, ouais.
Et du coup, ils vont vous proposer de base cet établissement-là. Mais dans l'absolu, vous pouvez accoucher où vous voulez.
Donc, vraiment prendre en compte... En fait, l'idée, c'est pas d'aller chercher droite à gauche. C'est si jamais, là où vous êtes, vous ne vous sentez pas bien, donnez-vous ce droit... D'aller voir ailleurs.
D'aller voir ailleurs, voilà. C'est tout à fait ça.
Mais d'ailleurs, c'est ce que je me disais, finalement, dans ton travail d'accompagnement, et donc, alors, je vais dire les doulas en général, mais en même temps, tu ne peux pas être mieux placé que de dire sur tes accompagnements à toi. T'es beaucoup dans l'accueil des émotions, finalement.
Tout à fait. Tout part des émotions. Donc, effectivement, quand j'accompagne la femme, le couple, ou même la fratrie, c'est de partir de ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce qu'ils pensent là? Est-ce que ça, la proposition qu'ils auraient faite ou l'expérience qu'ils ont vécue, l'événement qu'ils ont vécu, voilà, quel est leur ressenti par rapport à ça et comment ils se positionnent par rapport à ça? Donc accueillir, ressentir l'émotion, l'accueillir.
Ouais, voilà. Pas forcément rester dans le mental, mais se dire, finalement, là, si je vous dis, bah voilà, ça va se passer comme ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous?
Tout à fait.
Ah, j'ai envie de vomir. Ah, bah alors peut-être qu'il faudrait se poser la question si ça correspond ou pas. C'est
et,
ça.
Voilà. Et c'est d'autant plus vrai que dans la vie de tous les jours, hein, hormis peut-être des personnes qui sont déjà dans cet état de pratiques, par exemple, de méditation ou même de yoga, pour une maman qui a un projet d'accouchement naturel, physiologique, c'est encore vrai plus, même si dans le cas d'une péridurale, dans l'absolu, mais vraiment une personne qui décide d'accoucher en conscience, naturellement, ça change tout et la connexion doit être là.
En tout cas, j'ai envie de dire, mais comme je le disais dans d'autres émissions, hein, vis-à-vis de quoi qu'on fasse, nos choix, nos actions, dès que ça devient désagréable dans notre corps, c'est comme un baromètre ou une boussole qui nous dit « Mayday, peut-être mauvaise direction ». C'est ça, donc vraiment s'écouter, ralentir, respirer.
Ralentir, voilà, ressentir, on est là, hein. On est là, on est tout à fait là.
Ok. Et du coup, je pense qu'on abordera finalement d'autres sujets au fur et à mesure de l'émission. On va partir sur l'allaitement et puis on verra où ça nous mène ensuite. L'allaitement, c'est une question qui se pose, j'imagine, assez en amont ou pas d'ailleurs.
Oui, en fait, tout comme l'accouchement, l'allaitement, en tout cas, si on a un projet d'allaiter son enfant, ça se prépare. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas, tout simplement parce que dans nos sociétés, il n'y a plus cette histoire de transmission qui pouvait se faire ou qui se fait dans d'autres cultures. Je vais vous rapporter une petite anecdote. J'ai donc accompagné une maman qui avait pour projet d'allaiter. Et en fait, elle m'a partagé qu'en fait, elle n'avait jamais vu de femme allaiter. Et donc, la projection même de ça, c'était, voilà, tout était intellectuel, bien évidemment. Mais au niveau du ressenti ou même du vécu, elle n'avait jamais vu une femme allaiter son enfant.
Tu sais que je suis en train de me dire que moi, c'était mon cas. Enfin, outre que je n'avais jamais pris un bébé dans les bras avant de prendre le mien, mon premier, je n'avais jamais vu... peut-être si, une amie. Ouais, enfin, c'était très, très limité, en tout cas. Ouais, donc c'est vrai que finalement, de s'informer, qu'est-ce que c'est, comment ça marche...
Voilà.
Alors, il y a des associations aussi, hein. Enfin, il y aurait la Leche League ou d'autres,
alors,
hein, bien entendu.
Alors, du coup, en tout cas, dans mon accompagnement à l'allaitement, parce que je ne suis pas une conseillère en lactation, c'est vraiment une transmission de femme et de mère à femme et mère à mère. J'ai pu allaiter assez longuement mes enfants.
Ouais.
J'ai envie de dire, c'est les toutes premières informations. Et quand, si la maman venait à se trouver en difficulté, de l'orienter vers une conseillère en lactation ou même les associations comme la Leche League notamment, mais il en existe d'autres, pour qu'elle trouve l'aide dont elle a besoin réellement. Mais je dirais, pour une première prise en main et du soutien au quotidien, j'arrive à apporter cet accompagnement-là.
Suite à la naissance et donc en préparation aussi.
Tout à fait.
Alors,
Donc par rapport à l'allaitement, alors ce qu'on disait c'est que finalement, alors moi, en fait en vrai on va le dire, donc il y a la doula, mais en fait Fanta qui est face à moi, elle n'est pas que doula et que coach parental, elle a 50 casquettes sur la tête d'ailleurs, là, je sais pas laquelle, on en avait mis une, deux aujourd'hui, et puis finalement tout autour de cette communication apaisée avec soi et en famille, là pour le coup, mm-hmm. c'est vraiment spécialisé dans la famille, oui. plus particulièrement, je sais que tu as d'autres cordes à ton arc et peut-être on va pouvoir en parler. Parce que ça peut aussi donner des idées, des envies pour nos auditeurs. Peut-être que vous ne connaissez pas toutes ces pistes. Si on parle... Alors attendez, je pioche dans mon chapeau magique. Du portage.
Oui, donc je propose des ateliers de portage, que ce soit en groupe ou en individuel. L'idée, encore une fois, comme tout mon accompagnement, c'est de, encore une fois, donner aux parents la possibilité d'être en lien avec leur enfant, d'être en lien avec eux-mêmes et de tisser, de développer un lien d'attachement qui soit le plus précieux possible, voilà. Et donc de partager des moments de complicité et de communiquer. Parce que ben, quand on a notre enfant contre nous, notamment grâce au portage, ça permet cette communication directe presque du pot à pot, hein, voilà, et qui est très important dans le développement du bébé, mais également pour installer le lien d'attachement parent-enfant.
Parce que qu'on se le dise, hein, ça va être le moment de passer ce message qui me tient très très à cœur. Hein. Plus on est, en tout cas, enfin, plus au départ. Pendant, après la naissance, on est proche de son enfant, plus lui se sent en sécurité et plus il pourra partir vite et loin.
C'est enfin, ça. Non,
l'idée, c'est, on est bien d'accord que c'est pas débarrassez-vous de vos enfants au plus vite, mais en fait, parfois, j'entends encore que, ah oui, mais non, mais si on est trop proche, après, il va plus nous lâcher et puis il saura pas se débrouiller dans le monde difficile dans lequel nous vivons. Alors que c'est tout à fait le contraire. En fait, plus l'enfant aura une sécurité affective, aura ses personnes, sa maman, son papa, mais même ses grands-parents, ses frères et sœurs, plus il sera en sécurité dans le fait qu'il est aimable, qu'il est capable, qu'il est une personne qui vaut la peine d'être là, et plus il va pouvoir s'épanouir et partir au monde en sécurité, finalement.
Oui, ça, merci de le rappeler, c'est exactement ça. Un enfant n'est pas jamais trop gâté parce que on va porter
en
amour, parce que on va le porter, bien au contraire, il a besoin de ça, et j'ai envie de dire, nous avons besoin de ça, parce que c'est à la fois, ça fait du bien au bébé, à l'enfant, mais ça fait du bien aux parents aussi. Et là, la sécrétion d'ocytocine, la hormone de l'amour, voilà, se développe, nous enveloppe, et c'est juste chouette, quoi.
Et je me rappelle la petite anecdote personnelle. Je sais pas pourquoi, je sais plus si c'était mon fils ou ma fille, mais peut-être ma fille qui aimait le bruit de l'aspirateur. Et du coup, je la portais en écharpe, je passais l'aspirateur et du coup, elle s'endormait. C'était formidable.
Oui.
Et du coup, je liais l'utile à l'agréable.
Les bébés aiment bien les bruits, ce qu'on appelle les bruits blancs.
Dans
le bruit d'aspirateur, il faut partir ou de la hotte de la cuisine. Ça les apaise et ça rappelle quand
à l'intérieur, c'est qu'ils l'ont entendu avant,
voilà,
en fait.
C'est
donc
ça,
passez l'aspirateur pendant votre grossesse, passez l'aspirateur après et comme ça votre enfant il sera apaisé, ça lui rappellera des bons souvenirs. Non mais en tout cas le portage crée ce lien. Alors j'ai envie de dire quand même attention de savoir aussi en tant que parent se détacher, parce que c'est vrai que parfois il y a cette fusion plus. Alors plus souvent j'imagine c'est entre la maman et son enfant, mais de laisser aussi la possibilité à son enfant de se détacher. Tu vois, on était en train de dire créer du lien tout en étant quand même dans la réserve que notre enfant, c'est une plante qui pousse.
Oui.
On n'est pas obligé d'être collé tout le long de la pousse. Je ne sais pas ce que ça t'inspire.
Bah, moi, j'ai envie de dire que quand l'enfant a fait son plein de réservoir d'amour, il se détache tout seul.
Voilà, mais attention aux parents de ne pas le garder emprisonné, entre guillemets.
Je pense que après, l'enfant peut avoir cette capacité de remettre le parent à sa place dans l'âge et c'est bon pour moi. Encore faut-il que le parent l'écoute, je suis d'accord avec
oui,
toi.
Oui, mais c'est ça, d'être attentif, c'était plus dans l'idée, voilà, en tant que parent, d'être attentif aux signaux que nous envoient nos enfants. l'enfant s'il en a eu assez. Parce que j'ai vu parfois, c'est il y a longtemps de ça, hein, mais et une maman qui gardait son enfant dans les bras, mais tout le temps. Ah, mais elle a besoin, tout le temps. Tout le temps, c'était peut-être un peu... J'ai une histoire de curseur, quand même.
Comme pour beaucoup de choses.
Non, mais voilà.
Peut-être que c'est la maman qui avait besoin de quelque chose, mais finalement.
Voilà, la question parfois peut se poser. Et surtout, oui, parce que prenez soin de vous aussi.
C'est ça.
Donc, le lien d'attachement, c'est formidable. Le portage, c'est formidable. On va parler de d'autres choses, de l'allaitement. Mais donner un biberon, si c'est son choix et qu'il y a des raisons pour, c'est OK. Enfin...
Ah oui, mais vraiment, il faut sentir, enfin, le « il faut » est peut-être pas nécessaire, en tout cas, se sentir OK avec son choix, même si l'extérieur aura toujours son mot à dire. Si vous êtes OK avec, au bout d'un moment, il accepte.
Bah, sachant que si vous donnez le biberon, il y a les pro-allaitements qui vont dire « mais ça va pas !» Et si vous allaitez, il y a les pro-biberons qui vont dire « non, mais ça va pas !» Donc, de toute façon,
non, mais voilà,
ça déplaira toujours à quelqu'un.
Voilà, donc voilà. Vaut mieux donner, entre guillemets, un biberon en conscience, en étant focalisé sur son bébé.
Et aligné, voilà, et aligné, les yeux dans les yeux.
Voilà, ouais. Les yeux dans les yeux, que de lui donner le sein en le regardant pas.
En étant sur sa tablette.
Voilà, non, mais clairement. Donc, oui, c'est vous qui avez le choix et qui savez ce qui est le plus juste pour vous et votre enfant.
Donc voilà, donc plein de manières de créer ce lien, ce lien d'affection plus. Alors, je vais repiocher dans mon chapeau. Oh, les massages.
Donc,
c'est 12 émissions en une aujourd'hui.
Oui, alors l'idée, je vais vous parler du maternage proximal. Je vais avoir ce mot de maternage proximal. C'est le fait que, alors je n'oublie pas le papa, mais ça a été défini comme ça à la base. C'est le fait que une maman, parce que bien, enfin les premiers mois, en tout cas pendant longtemps, même si maintenant ça change avec les nouveaux papas qui s'impliquent plus, c'est bien la maman qui répond aux besoins fondamentaux de l'enfant, surtout si elle allaite, voilà. Et donc on parle de maternage proximal quand la maman répond et de façon assez immédiate aux besoins émotionnels et physiologiques de son enfant et le laisse pas pleurer, par exemple, va le porter, va lui proposer le sein, parce que ça reste quand même le lait maternel, le meilleur lait pour le nourrir un bébé.
Physiologiquement, ouais.
Voilà. Donc, et cette pratique du maternage proximal regroupe le fait, effectivement, d'allaiter son enfant, de porter son enfant, de masser son enfant.
De chanter avec son enfant.
En tout cas, d'être centré sur le bébé. Voilà. Et donc, moi, j'aurais tendance à parler de parentage proximal, ouais, en incluant les papas, parce qu'effectivement, de plus en plus de papas s'impliquent dans ça.
Avec toujours attention cette histoire de curseur, parce qu'à un moment donné, alors ok, enfin après là c'est Muriel qui parle et qui donne son point de vue, besoin de l'enfant, ok, mais pas oublier le besoin du parent, un besoin de repos qui est fondamental chez le parent qui perd, je ne sais plus les chiffres, mais un nombre d'heures très très grand la première année de vie de leur enfant. À un moment donné, enfin la mère, l'idée c'est pas d'aller jusqu'au épuisement maternel,
maternel, voilà. Tout à fait.
Donc comment, bah tiens, on va bifurquer un petit peu. Comment la maman se rend compte si elle est en train de partir trop loin dans le fait qu'elle est plus, elle en oublie ses propres besoins. Il y a quelque chose, il y a des signes qui.
Alors ça peut effectivement démarrer par ce qu'on appelle un baby blues, mais qu'en fait est physiologique en fait. C'est les hormones, des chutes d'hormones d'après la grossesse, etc.
Qui sont naturelles,
voilà,
déjà.
Ce qui sont naturelles. Ouais. Donc quelques jours après l'accouchement, elle peut vraiment se sentir pas bien, dire je devrais être heureuse mais je le suis pas, et passer par plein d'émotions contradictoires. Ça c'est juste normal,
d'accord, okay.
Voilà, mais quand ça perdure au-delà d'une semaine, de deux, etc., là on peut avoir une dépression postpartum,
ouais,
si on appelle ça, avec la nécessité de consulter. Mais dans tous les cas de figure, en tout cas, c'est d'en parler à son médecin, de dire voilà, et de dire mais ça peut aller, j'ai envie de balancer ce bébé que j'ai voulu par la fenêtre.
Okay.
Mais voilà, elle le verbalise, ça veut pas dire c'est une mauvaise mère ou quoi.
Ah, non, non, bon,
mais effectivement, le manque de sommeil, comme tu l'as rappelé, et le fait d'être passé quand même par un événement qui est très intense,
une épreuve sportive de haut niveau,
qui est d'accoucher, c'est juste normal de pas se sentir terrible, voilà. Mais encore une fois, ça dépend des femmes. Toutes les femmes ne connaissent pas le baby blues.
Oui, oui, c'est vrai. Personnellement, j'ai, enfin, j'ai pas l'impression d'être assez par là. Ouais.
Mais en tout cas, si vous êtes dans, vous retrouvez à être dans cet état-là, c'est juste normal. Ça ne l'est plus à partir du moment où ça dure dans le temps,
d'accord,
vraiment.
Okay.
Et là, il faut consulter votre médecin. Et
donc là, on parle de juste après la naissance. Et c'est vrai que ma question au tout début était plus finalement dans le temps, quand on est justement dans ce parentage, maternage proximal, comme
oui,
tu l'expliquais. Et je parlais de cette histoire de curseur. À quel moment on pourrait... Parce que j'ai déjà vu des mamans avec des cernes, enfin, et les enfants ont 6, 12, 18 mois, et oui, mais l'enfant.
D'accord.
Tu vois, et à quel moment on peut se dire, ou est-ce qu'on peut, sans bien sûr être jugeant ou quoi que ce soit, mais si on voit autour de nous une maman qui a l'air de plus en pouvoir, quoi.
Ben, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est où est le papa? Parce qu'en principe, il y en a un. S'il oui. est effectivement là, c'est que peut-être...
lui proposer de prendre le relais.
Voilà.
Cas, ouais, davantage.
Mais
si la mère veut bien.
Voilà, merci de le rappeler. Parce qu'on a l'impression aussi qu'on peut tout faire et qu'on doit tout faire. Savoir déléguer.
Oh, les mamans... Oh, alors, message à toutes les mamans. SOS, sachez qu'il est possible de déléguer. Ce ne sera pas fait comme vous le faites. Mieux, moins bien, on n'en sait rien. En tout cas, ça vous permettra de prendre soin de vous un petit peu. Un
voilà.
bain, une sortie shopping, un cocooning, un DVD avec un pot de crème glacée devant
voilà.
la télé. Mais un petit temps au moins,
voilà.
des pauses, s'autoriser la pause.
S'autoriser la pause et effectivement y aller en douceur si c'est quelque chose qui vraiment nous effraie ou quelque chose comme ça. Mais de passer le relais, bien évidemment, au papa ou, j'ai envie de dire, à toute personne en qui on a confiance pour nous relayer un coup et avoir un petit moment pour soi. Parce
les grands-mères, les meilleures amies qui sont mamans aussi, tant
mais
qu'à
voilà,
faire, ça peut nous rassurer.
Vraiment, ou même, encore une fois, la doula peut...
La doula est là pour ça aussi.
Également, pour que la maman puisse souffler un petit peu. Tout à fait.
D'ailleurs, toc, idée qui me passe. Alors là, je ne m'adresse plus aux futurs parents, mais aux gens autour. En cas de naissance, moi, je vais trouver un truc super génial, c'est d'offrir des plats faits maison à la maman et donc à la famille pour que justement la mère n'ait pas à gérer ça. Alors, ça peut être des choses qu'après, elle peut mettre dans son congélateur et ressortir au fur et à mesure, voire offrir des heures de ménage, voire faire le plein de courses, j'en sais rien, mais voilà. Plutôt que 150 doudous ou je ne sais quoi.
C'est clairement ça. Et effectivement, dans les accompagnements qu'on propose, c'est de réunir l'entourage des futurs parents et de leur faire des propositions dans ce sens-là, en disant, voilà, mais ça peut être des bons d'heures de ménage ou d'heures de garde, voilà, qui sont très, très appréciés, appréciables.
Le bébé ne verra pas qu'il n'a pas eu 50 bodys...
Tout à fait.
Non, mais finalement, c'est vrai que parfois on est centré sur l'enfant, alors que finalement, lui tout petit, tant qu'il mange et qu'il dort,
et qu'il est
propre et qu'il a sa maman, il est content. Donc finalement, prenons soin de la maman et
c'est
du
ça.
Papa.
C'est ça.
Voir sortir les grands frères et grandes sœurs,
aussi.
Les emmener à droite à gauche aussi. Et puis peut-être éviter trop de visites aussi au tout départ.
Oui, du coup, accepter que des mamans n'aient pas envie qu'on leur rende visite à la maternité. Parce que vraiment, souvent ça revient dans les échanges avec les parents, ils s'autorisent pas assez. Alors il y en a qui vont marquer le coup en disant non, je veux voir personne, attendez le retour à la maison, mais vraiment autorisez-vous si vous ne le sentez pas à différer les visites à même une semaine après. Le bébé, il est là, vous êtes là, tout va bien, mais au moins vous êtes vous serez plus réceptif à l'accueil des gens qui viennent vous voir. Donc voilà.
Alors, je vois qu'on a fait une digression un tout petit peu. On va revenir à peine sur le massage.
Oui, donc le massage, c'est en tout cas proposer du toucher bienveillant. L'idée, c'est encore une fois d'être en lien avec son enfant. Et en fait, la peau fait partie des organes avec lesquels le bébé communique, en fait. Mmh. Énormément de choses passent par la peau. Et tout ça encore, c'est pour lui permettre de développer sa sécurité intérieure et de sentir qu'on s'occupe de lui, que ça procure du bien-être. Et c'est aussi j'appelle ça un écosystème qui s'auto-entretient parce que quand je vois que mon bébé est bien, moi-même je suis bien, ça m'apaise, etc.
Bien sûr, oui.
Voilà, donc sécrétion
de cytocine. Faire du bien mutuellement, tous ensemble.
Voilà, tous ensemble.
Faites l'amour, la guerre.
Et donc voilà. Et voilà, l'idée.
Et pour le coup,
c'est
ça peut impliquer le papa peut-être plus facilement aussi.
Mais carrément, ça implique le papa qui peut s'autoriser à effectivement masser son enfant. Et il n'y a pas vraiment de technique. Alors moi,
je me permets. Alors, parce que j'avais suivi une petite formation sur le sujet. Alors moi, c'était plus massage enfant parce que c'était plus des bébés à l'époque.
Oui.
C'est de demander la permission à son enfant.
Tout à fait.
Même quand il a 5 jours, ça marche. Hein.
C'est ça. L'idée, c'est de vraiment faire prendre conscience à notre enfant que son corps lui appartient et que même si je suis son parent, je peux pas venir lui proposer des choses avec lesquelles il serait pas ok. Encore une fois, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour mon enfant, et du coup lui transmettre cette idée-là
dès tout petit.
Dès
le
tout
consentement
petit. Le consentement et effectivement ça peut être aussi une façon de prévenir des actes pas très bienveillants
malheureusement
plus tard.
Qui existent encore,
voilà, qui existent. Si un enfant était habitué tout petit à ce qu'on lui demande l'autorisation de le toucher, le jour où malheureusement il sera en face d'une personne qui sera pas dans la bienveillance, voilà,
il a plus de chances de réussir à dire non,
voilà,
c'est
de
pas
se positionner plus facilement, voilà.
Ça en fait plein de sujets, j'adore. Donc ça nous emmène, du coup moi qui pars un peu loin, ça m'emmène même du coup au bisou à la grand-mère.
Mais tout à fait, voilà.
Par rapport au consentement, moi je suis une partisane et je milite, ne forcez pas les enfants à faire des bisous aux inconnus et même
même à nous
et même à vous, à nous-mêmes,
mais
à
oui.
leurs parents, c'est, mais bien oui, merci. En fait, mais parfois oui, mais c'est bon, je suis ta mère, mais non, j'ai pas envie de te faire un bisou, ok,
voilà.
Quel que soit l'âge de l'enfant,
tout à fait.
C'est ok. Et d'ailleurs, moi, en tout cas, j'ai remarqué, là, c'est une expérience personnelle, c'est que, alors moi, ça fait des années que je ne force pas mes enfants à me faire des câlins ou des bisous, et j'en ai de plus en plus.
Ben voilà.
Même à rentrer dans l'adolescence, on dirait c'est le moment où on s'éloigne. Ben non, c'est justement, il y a une espèce de rapprochement, c'est comme une renaissance finalement. Et je viens rechercher justement cette sécurité que j'avais d'ailleurs peut-être pas eue tout petit, hein, parce que en tout cas, dans mon cas personnel, j'étais pas dans cette démarche-là à l'époque où mes enfants étaient tout petits. Mais voilà, et de se donner le choix. Mais comme nous, on n'aimerait pas que quelqu'un vienne nous embrasser et nous forcer de quoi que ce soit, mais même notre conjoint ou nos enfants d'ailleurs, parfois on dit non, là c'est pas le moment.
C'est ça.
Donc leur autoriser aussi ce droit.
C'est ça, tout à fait ça.
Alors, donc, on est dans la communication apaisée tout petit, on a vu avant, pendant, on a parlé de l'allaitement, on a parlé, ça c'est pour ceux qui arrivent en cours d'émission, comme ça pour écouter le podcast qui sera disponible très très bientôt sur la page internet yvelineradio.com. Et puis d'ailleurs, rediffusion aussi de l'émission, mais mardi, mercredi, jeudi à 11h. Donc on a parlé allaitement, le chant. On peut chanter avec nos enfants aussi.
Oui, on peut chanter avec nos enfants, mais déjà quand ils sont dans le ventre.
Ça doit faire des résonances de fou.
Tout à fait, ouais. Et ça permet effectivement d'apaiser le bébé. Mais le chant aussi, on peut s'en servir pendant l'accouchement. Pour gérer les contractions, gérer les vagues, pour ne pas dire les douleurs. Et donc, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et une fois que le bébé est là, des expériences, même à la fois scientifiques ou même des expériences personnelles de parents, rapportent que l'enfant, ayant entendu des comptines ou des chants, ou même de la musique, en fait, quand on lui mettait, une fois qu'il était là, c'était quelque chose qui l'apaisait.
Comme notre aspirateur tout à l'heure.
Tout à fait.
En fait.
Tout
mais
à
c'est
fait.
Vrai que c'est plus simple. Ouais, alors en fait, on va faire un. Tout à l'heure, je disais passer l'aspirateur. Non, chanter.
Voilà. Et en fait, ça a vraiment beaucoup de bienfaits à la fois sur la maman qui est enceinte. Ça permet aussi de l'apaiser.
Parce qu'elle respire.
Mais tout à fait. Bien. La respiration, le secret, la clé, c'est ça.
Mais
la respiration.
C'est ça, ouais.
Voilà. Et donc, de se servir du chant, de la voix, du son pour accueillir bébé aussi bien quand il est dans le ventre, quand il est en train de sortir et après.
Et si notre musique favorite, c'est du métal ?
Ça lui convient très bien aussi, okay aussi, quel que soit.
Non, mais voilà,
mais donc, ils ont apparemment scientifiquement une préférence justement pour du métal.
Ah bon ? Je disais ça complètement par hasard. Donc voilà. les fœtus
oui.
préfèrent le métal.
Voilà.
Ne vous privez pas, j'ai envie de dire. Pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter du Vivaldi ou du Mozart.
Voilà, carrément. Ou même d'assister à des concerts et tout ça. Enfin,
pas
vraiment,
hésiter ouais. finalement. Ouais.
Ils aiment.
Top, ça nous en fait des pistes. Ah là là. Alors, il nous reste une douzaine de minutes à passer ensemble. Comment l'enfant grandit ? La doula, elle n'est plus peut-être en forme de doula, mais Chrysaline on cocoon est encore là.
Oui. Alors, accompagner les parents, pour moi, c'est effectivement intervenir dès qu'ils en ont besoin. Donc effectivement, on a vu avec l'accompagnement doula que ça pouvait être avant la grossesse, pendant et après. Et l'idée après, c'est aussi de venir en aide aux parents quand ils se trouvent en difficulté pour communiquer avec l'enfant. Non, je ne t'apprends rien. voilà, quand on a notre petit bout de 2 ans dans ce qu'on appelle le terrible two, et là, on devient chèvre parce qu'il dit non à tout.
En même temps, il a tellement dit non avant que non, c'est voilà. le premier mot qu'il a tellement entendu.
voilà, donc par rapport à ça, et aussi, j'ai envie de dire, une période qui peut être compliquée dans la famille, c'est tout ce qui concerne l'orientation scolaire et même professionnelle.
Et donc là, on est encore on a fait un grand saut là.
Tout à fait.
On avait été dedans à 16.
Voilà. Où je propose de soutenir les parents par rapport à cette réflexion, en sachant que là, c'est vraiment de faire prendre conscience que le choix de l'orientation, ça revient à l'enfant, même si nous on a des envies, des rêves pour nos enfants, ça va être leur vie. On est là pour conseiller éventuellement, mais en tout cas accueillir
leur choix quel qu'il soit. Ouais.
Quel qu'il soit.
Et ça me rappelle, d'ailleurs, enfin, tu saurais de quoi je parle, vu que Fanta faisait partie de mon premier groupe de parents lorsque j'ai fait les ateliers Faber et Maslisch dans mon salon il y a 5 ans, un samedi matin, je me rappelle. Et on retrouve dans Faber-Maslisch une habileté qui s'appelle « Ne supprimez pas l'espoir ». Et finalement, dans ce cadre de l'orientation, peut toujours, c'est assez rigolo si vous entendez vos enfants à 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 ans même, hein, et qui vous disent « Ah, j'ai envie de faire ça plus tard ». Et que vous, ça fait « Ah ouais, au fond de moi, je l'aurais pas vu faire ça, c'est pas un métier idéal que moi, je pense, mais ce n'est que mon propre point de vue de alors d'adultes et de parents. Et finalement, plus on leur laissera cette possibilité de rêver ce qu'ils ont envie de faire, d'aller se renseigner sur comment le faire, de trouver finalement qu'est-ce que c'est vraiment, quitte à faire des stages, je sais pas, enfin il y a plein de possibilités. Et souvent, ils feront leur route et ils changeront. Et rappelons-nous peut-être aussi que, peut-être par rapport à... Alors, moi, j'ai une quarantaine d'années, mais nos parents qui faisaient souvent un métier pendant 40 ans, la même carrière, avec peut-être des évolutions, mais parfois, en tout cas, dans la même entreprise pendant 40 ans, là, aujourd'hui, arrivé en 2020, a priori, c'est pas le modèle.
Non, c'est plus le modèle.
Donc, nos enfants, nous-mêmes déjà, et nos enfants seront amenés à avoir plusieurs casquettes, plusieurs métiers, et peut-être passer de l'un à l'autre. Donc, à la rigueur, s'ils ont envie d'aller dans une direction, c'est OK que peut-être ils pourront changer de direction. Et c'est d'ailleurs les occasions de la vie qui leur donnera après l'idée d'aller dans une autre... Comme un, je sais pas, j'imaginais quelqu'un qui rebondit et puis oui. qui du coup part par-ci et puis il arrive sur un trampoline et, floups, et puis du coup il repart par-là. Mmh. Alors bon, faudra se poser un petit peu quand même de temps en temps pour gagner un petit peu d'argent et rentabiliser, réussir à vivre, hein, avoir juste au moins de quoi avoir un toit et à manger. Le minimum, mais en tout cas voilà, rien n'est fixé, rien n'est à vie, en tout cas... Bon, donc on a fait un petit peu le tour de tout ce que tu proposes. Alors, ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs, là, c'est comme Fanta, en fait, n'est pas une dame à... Alors, si, elle a 6 bras, mais seulement 6. elle peut pas être partout tout le temps. La chance que nous avons donc dans le département et puis même de manière nationale, hein, il y a des réseaux pour chacune des propositions dont on vous a parlé.
Tout à fait.
Alors si on reprend un petit peu donc les doulas déjà.
Alors les doulas, en tapant sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez doula et vous allez tomber. En tout cas, notamment sur le site de l'association française Doula de France.
Ouais.
Donc, vous avez un certain nombre de renseignements et surtout une cartographie des doulas sur tout le territoire et, comme on le disait plus tôt, le département de 78 est le département où il y en a le plus. Donc, ça, c'est chouette.
C'est fait.
Voilà.
autre sujet qu'on a abordé aussi. Où on n'avait pas forcément précisé par rapport au massage bébé, massage enfant.
Alors pareil,
il y a différentes associations, par où tu as été formée.
Alors c'est l'association française de massage pour bébé, qui m'a formée. Et donc en allant sur leur site, pareil, vous avez de référencer toutes les animatrices qui ont été formées selon les départements.
D'accord.
Donc il y en a forcément une près de chez vous.
Ah, et après il y a un protocole, des choses particulières. Après on peut, alors oui quand même, on peut dire à nos auditeurs, tu veux me dire si je me trompe, mais on peut avoir, comme tu disais, un massage bienveillant au moment de la toilette. On n'est pas obligé d'aller suivre des cours de massage bébé.
Non,
on est bien d'accord. Vous avez le droit de...
Oui, okay, sentez-vous libre de masser votre enfant, et si vous pensez avoir besoin de billes supplémentaires, allez-y, mais c'est quelque chose
de naturel,
d'intuitif, voilà.
Oh, je me rappelle un livre, Chantala, sais pas si tu le connais, livre, il m'a été offert à la naissance de mes enfants, et je l'ai réoffert plusieurs fois ensuite, et qui proposait justement, pareil, un massage englobant, alors idéalement en étant au sol, l'enfant sur nos jambes, pour être en contact avec la terre, et puis voilà, se réchauffer les mains. Alors on peut mettre de l'huile d'amande douce par exemple, ou peut-être du beurre de karité, je sais pas. Ah, si,
alors,
sur les peaux des enfants, qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit ?
Voilà, alors l'Association française de massage pour bébé conseille des huiles vierges bio, neutres. Et
après,
l'une des moins.
À froid, là, ou je sais pas quoi.
À première pression.
Voilà, c'est ça. Je sais
pas. L'une des plus neutres, pour éviter les problèmes d'allergie, c'est l'huile de colza ou de tournesol.
Mais l'huile de colza
de la cuisine. Justement, parce que comme les bébés ont une peau qui est très perméable.
Poreuse.
Et que tout pénètre et va dans le sang, l'idée c'est une huile qui peut être mangée. On va retenir ça. Et du coup, ça n'engage pas non plus de frais en fait, parce que le massage, ça ne doit pas être onéreux.
C'est ça.
Voilà.
Et puis après, on peut avoir juste les mains. Enfin, je fais le bruit, je me frotte les mains en fait. J'ai pas de bébé devant les mains, mais de se frotter les mains, se les réchauffer. Et on peut déjà, même sans huile finalement, déjà après
tout
le bain, avoir un petit temps.
Fait,
l'idée c'est quoi ? C'est d'englober plutôt et
de faire des pressions assez suffisante pour que ça soit pas des chatouilles en fait pour le bébé.
Voilà, et puis de prendre chaque partie du corps surtout en symétrie, penser à chaque côté.
Chaque côté, à fait, et de commencer par les pieds pour les tout petits, parce que c'est une zone dont ils ont l'habitude qu'on touche, et d'éviter de commencer par la tête.
D'accord, laisser le temps que ça ferme un petit peu
au-delà
aussi.
Au-delà de ça, en fait, c'est que la tête, on y touche peu dans la vie quotidienne.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc par habitude, on commence par les pieds,
on monte
pour
sur les jambes, un petit peu le bidou, attention, parce que c'est pareil, ça digère, un peu les bras, les épaules.
Alors pareil, le bidon, oui, non, c'est...
Le ventre de l'enfant.
Le ventre de l'enfant. C'est au contraire... Pensez à cette zone, parce que certains bébés vont avoir des coliques, des choses comme ça. Donc, le massage est très apaisant pour cette zone-là. Donc,
au contraire.
Mais évidemment, éloigné des heures de repas.
C'est pas juste après manger. Allez,
non,
on va se faire un petit...
Voilà. Et surtout, être dans un endroit où le bébé a suffisamment chaud etc. Et que nous-mêmes, on est OK à ce moment-là. Et qu'on est vraiment dans l'ici et maintenant.
Comme on disait tout à l'heure avec notre soeur de l'allaitement.
C'est ça.
En fait, c'est pour le coup un conseil que je donne, mais sur tout sujet, un conseil, en tout cas moi, quelque chose dont j'ai pris conscience et qui a changé mon quotidien, c'est que quoi qu'on fasse, faisons-le parce qu'on a envie de le faire.
C'est ça.
Voilà, parce que si on va dans l'idée qu'on est obligé de le faire, à un moment donné, il y aura une répercussion. J'ai fait ça pour toi et maintenant c'est ça que tu me donnes.
Et on est obligé de rien.
On est obligé de rien. Ouais, ouais, ouais. Donc, suivre son instinct, ne pas hésiter à aller chercher des pistes à droite, à gauche. Les doulas sont là dans le projet de naissance. Donc, pour te retrouver, Fanta, donc c'est chrysalier.cocoon.com. De toute façon, je noterai des informations sur l'article, sur le site internet avec le podcast qui sera disponible. Et puis, quant à nous, eh ben, on va se retrouver prochainement. Alors là, plusieurs fois, vous aurez l'occasion d'écouter cette émission. Si vous n'avez pas tout bien entendu, pas tout bien noté, c'est possible. Hein, mardi, mercredi, jeudi à 11h. Et puis, d'ici quelques semaines, je vous réserve un nouveau sujet, une nouvelle invitée, des choses encore différentes. Toujours, en tout cas, dans le thème de la communication apaisée. Histoire de favoriser la paix en soi et dans le monde entier, finalement. Super grand merci, Fanta.
Merci à toi, Muriel.
Ouais, j'ai passé un super moment.
Moi aussi.
Bon, bah maintenant, on va aller faire des bébés.
C'est ça.
Bye, bye.
Bye.